Bonjour, François Bousquet, vous êtes journaliste, vous venez de publier un livre, La droite buissonnière. Très intéressant, comme son nom l'indique, il fait référence évidemment à Patrick Buisson. Quand j'ai reçu cet ouvrage la première fois, je me suis dit, tiens, pourquoi un livre sur Patrick Buisson ? Évidemment, le personnage est médiatisé, il est connu, mais maintenant il va l'être beaucoup moins, peut-être un peu oublié par une certaine catégorie de la population, celle qui ne suit pas trop l'actualité. J'ai trouvé cette démarche assez surprenante. Puis quand j'ai lu votre livre, j'ai vu qu'il y avait d'abord pas simplement un livre sur Patrick Buisson qui nous fait découvrir qui est ce personnage, mais vous nous faites comprendre à quel point ce personnage a modifié profondément le paysage politique français et la droite française. Et pas seulement, votre livre va beaucoup plus loin. Il raconte l'histoire des idées et l'histoire de la droite telle qu'elle était, telle qu'elle a évolué et telle qu'elle est actuellement. Et moi, je retiens surtout de cet ouvrage, au-delà d'un livre sur Patrick Buisson, dans ce titre « La droite buissonnière », vous auriez pu l'appeler ce que l'on appelle maintenant la droite hors les murs.
Exactement, oui. Oui, j'aurais pu l'appeler du titre « La droite hors les murs », qui est un scénario très séduisant. La droite hors les murs, en réalité, c'est Buisson, c'est trois personnages principalement, c'est une troïka, Buisson, Zemmour, Villiers, et qui cherche un espace politique, et cet espace est politiquement inoccupé. Il va en gros de Laurent Wauquiez, de la droite des Républicains, au Front National, à Marion Maréchal Le Pen. Mais le seul problème, le seul angle mort, pour ainsi dire, de la droite hors les murs, c'est l'impasse politique. Et Buisson, Zemmour et Villiers l'ont conçu, l'ont perçu, c'est qu'elle n'a pas d'incarnation politique. Elle a une incarnation médiatique, elle a une incarnation éditoriale avec les trois auteurs cités, qui ont une force de frappe considérable. 200 000 exemplaires pour Villiers, 500 000 quasiment pour Zemmour. Et on n'est pas loin, on va atteindre les 100 000 pour le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, qui est un pavé de 500 page très dense, en petits caractères, donc qui touche par définition un public plus restreint, et on va quand même atteindre 100 000 exemplaires. Donc c'est un échec politique, la droite hors les murs, mais c'est une réussite métapolitique. Donc j'ai préféré l'appeler la droite buissonnière, aussi en hommage à ce qui est pour moi le plus grand critique francophone de l'après-guerre, Paul Vendrome, critique belge, et qui avait consacré aux grands auteurs français du XXe siècle, Drieu-La Rochelle et quantité d'autres, un petit essai qu'il avait intitulé « La droite buissonnière ». Et comme vous le disiez, la bizarrerie, la particularité, la spécificité de Patrick Buisson, c'est qu'il n'aurait jamais dû se trouver là où il s'est trouvé, c'est-à-dire à la tête du pouvoir, le premier conseiller du premier cercle de Nicolas Sarkozy. Pourquoi n'aurait-il dû jamais se trouver à cette place ? Parce qu'il a un passif, et ce passif au regard de la société actuelle, le condamne aux marges, à la périphérie, à être un fantôme médiatique. Et il a fait de ce passif son principal actif. Quel est donc ce passif ? Eh bien, c'est l'Algérie française. Il est toujours attaché à l'Algérie française. Il n'a aucune attache outre-Méditerranée, en Algérie, aucune attache familiale. Mais à 10 ans...
C'est pas une famille de pieds noirs.
Et c'est pas une famille de pieds noirs, en aucun cas. C'est une famille de petits bourgeois parisiens. Aujourd'hui, il a une maison en Vendée, donc il est Vendéen de cœur, on peut dire. Mais pour autant, c'est un parigot, c'est un titi parisien, petit bourgeois, personnage célinien. Je dis que c'est l'univers de Céline, mais sous les traits affables des personnages de Marcel Aimé. Donc sans la violence, sans la rancœur de Vallès, de Céline et de ces personnages-là. Donc rien ne le prédisposait à intégrer les hautes sphères du pouvoir, l'Algérie française. Il a également, et tous les maîtres qu'il s'est choisis adolescents étaient des auteurs Algérie française. Le premier journal qu'il a acheté, enfin les premiers journaux qu'il achète, c'est les journaux de Boutang, d'Ariès et de Girardet, qui sont les journaux se revendiquant de l'Algérie française. Il va ensuite diriger, il va travailler à Minute, et donc diriger même la rédaction pendant un an, en 86-87. Donc tout ça faisait que il n'avait pas les codes. Qu'est-ce que les codes de la société du spectacle, de ce paysage donc, de ce complexe, ce qu'on peut appeler un complexe politico-médiatique, eh bien en réalité ce complexe fonctionne sur la loi d'endogamie, ou de la consanguinité. Je veux dire par là que c'est le même qui coopte le même, et donc évidemment, le même ne peut pas coopter un personnage comme Patrick Buisson. Et il a pu, malgré tout, pour ceux qui ont eu l'occasion ou la chance de le côtoyer, grâce à l'intelligence royale et magnifique du personnage, qui a cette faculté de clarifier le réel, d'ouvrir des perspectives, d'arracher, de percer le brouillard des choses et le brouillard du monde, grâce donc principalement à cet outil, donc cet outil intellectuel, ainsi que sa connaissance de la carte électorale et de l'histoire des mentalités, il a pu s'imposer tout en haut de la pyramide.
Vous dites qu'on rencontre peu d'hommes intelligents dans une vie, je veux dire authentiquement intelligents, porteurs d'une vision du monde.
Oui, c'est l'impression qu'il m'a laissé. Moi, je l'ai rencontré à quelques reprises étant journaliste, en particulier pour ses années érotiques, qui est un chef-d'œuvre, me semble-t-il, de sociologie et d'histoire des mentalités. On est passé à côté de ce chef-d'œuvre parce que, à l'époque, il était conseiller de Sarkozy. Donc la société n'aime pas avoir affaire à des personnages qui ont plusieurs casquettes, on l'a oublié. Mais je l'ai découvert réellement il y a 2 ans, et je dois dire qu'il m'a soufflé par cette qualité d'intelligence, cette qualité de clarté. Et en effet, on rencontre assez peu d'hommes intelligents dans une vie, donc je me suis livré à un exercice au fond d'admiration, j'espère pas sans réserve, il ne s'agissait pas de dresser la louange ou les louanges de Kim Jong-il-Buisson, en quelque sorte, mais de prendre le contre pied de tous les travaux qui ont pu paraître sur lui, de tous les papiers qui ont pu lui être consacrés, à quelques exceptions près. Globalement, on a l'impression de lire le casier judiciaire d'un escroc multirécidiviste. Donc j'ai vraiment, une fois rencontré le bonhomme, une fois lu ses entretiens, ses livres, j'ai voulu le remettre sur pied et tordre le cou à quantité de clichés, le premier d'entre eux étant qu'il a voulu faire gagner Maurras. En effet, l'éducation est maurrassienne, mais son père est d'abord... Pardon ?
Oui. Alors, principal cliché, ce qui est la caricature, homme d'extrême droite, raciste, antisémite, vous démontrez dans le livre à quel point c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui n'est même pas proche du Front National.
Oui, oui.
Et qui pense que le Front National ne gagnera pas.
Voilà, c'est dans un deuxième temps, on peut dégager trois périodes.
La France d'avant, finalement. Voilà. On va résumer cela le plus honnêtement possible, voilà, de la France d'avant, simplement.
Vous avez 1000 fois raison. Du reste, il a consacré un documentaire à Paris, puisque c'est vraiment c'est le Parisien. Et en voyant le documentaire, j'ai toujours en tête le début de Mélodie en sous-sol, où Gabin sort de prison et retrouve sa banlieue ouvrière, sa banlieue pavillonnaire. Et en réalité, pendant cette parenthèse qui a été la prison pour lui, donc un trou noir, il découvre une ville totalement métamorphosée, une ville où des buildings ont poussé, enfin bref, la ville monde moderne. Et Buisson, lui, provient d'un Paris villageois, d'un Paris communautaire, d'un Paris qui n'a pas encore été gentrifié. Donc en effet, c'est le monde d'avant. C'est fondamentalement le monde d'avant. Et du reste, il sort dans un mois un documentaire sur la fin de la paysannerie en France, à partir de grandes œuvres littéraires, dont Pierre-Jacques Elias, bien sûr, mais quantité d'autres dans quantité de provinces françaises, et il l'appellera « Ce monde ancien ». Donc, et on peut dire que ce monde ancien, en réalité, c'est un autoportrait du personnage.
Alors moi, je retiens surtout, principal enseignement sur... ce nom qui déchaîne autant de passion, c'est parce que finalement il a réussi ce qu'il voulait faire. Il a rabattu les prétentions, comme vous le dites, et les prérogatives exorbitantes de la gauche. Il a libéré la droite des interdits. Il a réussi ce que personne à droite n'avait réussi à faire depuis des décennies. Est-ce finalement, inconsciemment, ce qu'on lui reproche le plus ?
Ah oui, la punition est à la hauteur de la transgression. Et la transgression, elle est majuscule.
Parce qu'en réalité, quand on écoute maintenant certaines personnalités de droite, même François Fillon, s'il a gagné la primaire à droite, je ne vais pas dire que c'est sur une ligne Buisson, mais oui, c'est pas très long. C'est parce que Buisson était passé par là qu'il y a eu une libération de la parole sur certains thèmes.
Alors, vous avez raison. Il est en train de perdre Fillon l'élection présidentielle, puisqu'il va certainement être obligé, enfin, ce que les Américains appellent une procédure d'empêchement, c'est-à-dire qu'il va devoir sûrement renoncer à se présenter. On n'en est pas là.
Ce qui n'est pas certain.
Ce qui n'est pas certain, tirons pas des points sur la comète. Ouais. Il y a deux volets dans la ligne Buisson. Il y a un volet électoral et stratégique, sur lequel Fillon n'est pas et c'est en train de le condamner. Mais il y a surtout un volet idéologique. Et ce volet idéologique, vous venez de le souligner, c'est que la droite, paradoxalement, avait un surmoi moi de gauche. Hein. Donc en réalité, l'arbitre hein, des stratégies de la droite était la gauche. Et ça a été frappant autour en particulier de ce qu'on appelle, de ce qu'on a appelé le Front Républicain, qui trace un cordon sanitaire vis-à-vis du Front National et que Buisson va faire voler en éclats. J'ai l'habitude de dire qu'en m'inspirant d'un grand juriste allemand, qui est un grand théoricien de la souveraineté, Carl Schmitt, qui est un des grands noms du XXe siècle, hein, et qui a consacré une grande partie de son œuvre au concept de souveraineté, Schmitt dit « est souverain celui qui détient la capacité, le pouvoir d'exception, de décréter par exemple l'état d'urgence hein. ». C'est ça qui fonde la souveraineté. Or, je pense que ce qui fonde la souveraineté, c'est la capacité à délimiter le champ de l'interdit. C'est la vraie souveraineté est une souveraineté symbolique, hein, à partir de laquelle procède la souveraineté politique. Je m'explique. Hein, est souverain celui qui a la capacité de dire « là est le totem, là est le tabou ». Est souverain celui qui a la capacité de dire « là est le licite, là est l'illicite hein. ». Or, cette souveraineté, de fait, hein, et depuis un demi-siècle, hein, est le monopole exclusif ou la privilégiature exclusive de la gauche. Hein. Et c'est cela que Patrick Buisson va faire voler en éclats. C'est la levée des tabous. Et c'est la levée des tabous à travers un personnage, Sarkozy, qu'il fait parler en un certain sens par ventriloquie. Alors, Buisson et Sarkozy n'aiment pas, enfin, on imagine bien que Sarkozy n'accepterait pas cette proposition. Buisson la prend la nuance. Hein. Pour autant, Buisson impose en 2007, hein, et c'est vraiment le tabou majeur, hein, la notion d'identité nationale. Hein. Et c'était une identité qui était interdite. Hein. À la limite, à la rigueur, pouvions-nous parler d'identité républicaine hein. Mais d'identité nationale, en aucun cas. Et là, c'est l'interdit majeur. Hein. Donc, on a pu parler dès lors de frontières, de limites, hein, d'immigration, de référendum. Hein. Et au fond, il eût mieux valu que Sarkozy, une fois installé à l'Élysée, mette en œuvre le programme sur la base duquel il avait été élu. Ça n'a pas été le cas. Mais peu importe, au fond, l'important étant le champ de l'interdit et le champ symbolique de l'interdit, c'est cela qui a volé en éclats. Ça prendra beaucoup de temps, certes, hein, mais je crois que Buisson nous a fait gagner quelques années.
Votre livre s'appelle La droite buissonnière. C'est un titre très intéressant. Parce qu'on dit, on fait l'école buissonnière, c'est-à-dire on sèche l'école. Quoi, voilà. Ouais, et cette droite, elle sèche pas vraiment la droite, puisque cette droite buissonnière, elle a été votée aux primaires à droite. On l'a vu avec François Fillon. Donc elle sèche pas. Mais elle n'est pas très proche non plus. Elle se méfie. Électoralement, de nombreuses études indiquent que cette droite buissonnière est estimée à peu près 15 et 25% du corps électoral. Vous me contredisez si vous n'êtes pas d'accord.
Non, mais, je crois que vous avez raison.
Mais politiquement, elle ne pèse pas. Comment expliquez-vous cette...
C'est un peu le drame ou le dilemme plutôt de la droite hors les murs, mais c'est un dilemme qui est ponctuel. Hein. La nature politique a horreur du vide. Hein. Donc de fait, hein, s'il y a une demande électorale hein, de l'ordre de 20%, ça doit être le chiffre, je pense, qui est entre Wauquiez et Marion Maréchal Le Pen, où il y a cheval sur les deux. Qui est une droite Villiers mais élargie, une droite Villiers à la fois conservatrice et populiste, hein. Aujourd'hui elle n'est pas représentée ou elle est sous-représentée. Donc mécaniquement, de deux choses l'une, hein, ou cette droite va susciter son propre candidat, ou alors le personnel politique hein, va devoir ajuster la demande, hein, donc ce qu'il est en mesure d'offrir en termes programmatiques, hein, de l'ajuster à l'offre électorale. Hein. C'est presque une loi arithmétique. Hein. Donc je crois que cet espace vacant, politiquement inoccupé, le sera dans les années, dans les mois et les années qui viennent. Hein. On va voir ce qui va déboucher. Là, on est en train d'assister à un éclatement du paysage politique, à ce qu'on pourrait appeler une crise de régime, avec une explosion, on était dans un champ bipolaire, puis un champ tripartite avec le Front National, et aujourd'hui s'agrège quantité de candidats, donc on ne peut pas, nul n'a de pouvoir divinatoire pour percevoir ce qui va se produire, mais cette droite-là
surtout
va forcément...
Surtout en
ce moment où tous les jours il se passe quelque chose, et où ça s'emballe et ça s'accélère, hein. Mais cela étant, j'évoquais à propos de Fillon, Un des traits, et c'est la dimension qui intéresse le plus Sarkozy, avec également les sondages, mais c'est celle-là principalement, la force de la ligne Buisson. En réalité, Buisson s'inspire de la campagne du RPF en 47, hein, et de Gaulle en 58. C'est étonnant parce que ça n'est pas vraiment un gaulliste. On peut même dire que c'est un anti-gaulliste historique, hein, mais c'est étonnamment un personnage assez gaullien, Buisson. Et il reproduit ça en 2005-2007. Je m'explique. Hein. Le propre de la ligne Buisson, c'est d'offrir un désenclavement, je parle comme Buisson, un désenclavement sociologique de la droite. C'est-à-dire qu'à l'électorat conservateur traditionnel, principalement catholique, principalement provincial, de feu le RPR, de feu l'UMP et d'aujourd'hui le Républicain, il y agrège le vote des catégories populaires. Ce que Christophe Guillouis, le géographe Christophe Guillouis, a appelé la France périphérique. Donc la France des ouvriers et des employés. Et Buisson aime beaucoup citer cette phrase de Barrès, ce que Barrès appelait la France poignarde. Il ne voulait pas dire par là, Barrès, que c'était la France qui aime les poignards, hein, mais qui aime la poigne. Hein. Donc en réalité, on assiste à une synthèse étonnante, hein, d'un reliquat de légitimisme, donc cette droite conservatrice catholique, hein, et d'une association, d'une greffe bonapartiste, hein, donc la droite, la France des catégories populaires. Hein. Donc c'est principalement ça la ligne Buisson en termes de stratégie, hein, je dis bien en termes de stratégie électorale, pas de fond, en l'occurrence l'alliance, hein, des conservateurs, hein, la Manif pour tous, François Fillon affichant son catholicisme, défendant les chrétiens d'Orient, et les catégories populaires, donc la France populiste.
Voilà, et c'est ce que réussit, c'est ce qu'a réussi François Fillon. Alors, on parle des difficultés de François Fillon. Il faut les prendre avec beaucoup de prudence, parce que l'opinion peut très vite évoluer, peut très vite s'accommoder aussi chez les militants, comme ne pas s'y accommoder. Mais ce qui a posé un problème, c'est que c'est le personnage de François Fillon, quoi, finalement, très lisse, très propre sur lui.
Oui,
et puis,
ouais.
Je me suis dit, si vous aviez eu les mêmes révélations avec Charles Pasqua, et que Charles Pasqua était candidat à l'élection présidentielle, vous avez les mêmes révélations à 3 mois, ça passerait comme une lettre à la poste, quoi. Genre, pas surprenant de la part de Charles Pasqua, tout.
Et ni de Nicolas Sarkozy.
Évidemment, parce qu'en réalité, voilà, c'est pas... Les faits en eux-mêmes sont choquants, mais ne relèvent pas d'un braquage de banque, quoi. Là,
mais simplement, ça ne marche pas.
Une vieille dame, quoi.
Mais ça ne marche pas.
Mais c'est choquant, voilà.
Mais c'est choquant. C'est d'autant plus choquant avec François Fillon que, vous l'avez dit, c'est un personnage lisse, presque simnonien. Et au fond, il y a plusieurs
mythes. Même dans sa coupe de cheveux, les cheveux lisses, comme ça.
Voilà le notable.
Il aurait été un peu gros frisé avec un gros cigare à la Michel Charras. Non, mais c'est vrai.
Et les bretelles, hein.
Imaginez un Pasqua ou un Charras, on découvre ça, mais c'est zéro impact sur la campagne.
Oui, mais c'est tout l'inverse, et c'est d'autant plus tout l'inverse que sa principale force électorale, au fond, c'est qu'il s'inspirait d'un mythe politique assez important, hein, c'est le mythe Pinet, hein, l'homme au chapeau mou, la gestion du bon père de famille, l'homme honnête, l'homme intègre, hein, donc c'est un effet dévastateur pour lui.
Antoine Pinet qui était quelqu'un de très drôle.
Peut-être que François
j'ignorais. Un peu moins. Ah oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Antoine Pinet.
D'accord, très bien.
Grâce à Philippe Malot qui a un jour organisé.
Mais disons que le propre de Pinet, c'est cette gestion de bon père de famille. Hein. Et bon, il semblerait que la gestion de bon père de famille abrite certaines failles chez François Fillon. La menace, Buisson a donné un entretien cette semaine dans l'Express, hein, assez sévère, hein, pour François Fillon. Il est plus sceptique que vous sur sa capacité à réunir, à conjuguer ces deux droites, donc les droites conservatrices et populistes. Hein, et il dit la chose suivante. Malraux disait que le gaullisme, c'est le métro à l'heure de pointe. Il semblerait que le fillonisme, je cite Buisson, il semblerait que le fillonisme, ce soit le Rotary à l'heure de l'apéritif. Hein. Donc la grande menace que fait peser François Fillon, mais avant le Pénélope Guette, hein, c'est de ramener la droite de gouvernement, la droite, disons, qui est susceptible plutôt de gagner les élections, ce qui n'est pas le cas du Front National selon Buisson, mais peut-être allons-nous en parler. Buisson avait amené Sarkozy à plus de 30% en 2007. Hein, et au fond, il avait fait gagner le deuxième tour à Sarkozy dès le premier tour, à 31,5, je crois, de mémoire. Hein. Et là, tous les sondages montrent que Fillon est à 22-21%. Voire 20%. Donc la menace que François Fillon fait peser sur la présidentielle, c'est de ramener l'électorat de cette droite de gouvernement à l'étiage chiracien, 19-20%. Donc cela est le symptôme d'un échec de stratégie électorale.
Donc vers un transfert vers Marine Le Pen.
Donc un transfert vers Marine Le Pen au deuxième tour. C'est aujourd'hui dans tous les cas de figure, mais vous l'avez dit, il faut être prudent, ça n'est jamais que dans 3 mois l'élection. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, Marine Le Pen est au second tour. Mais dans tous les cas de figure, et c'est la démarche de Buisson depuis le départ, dans tous les cas de figure, elle est battue au deuxième tour. Et très tôt, au début des années 90, Buisson prend conscience. Parce que dans les années 80, il aimerait avoir une alliance des droites, donc UDF, RPR, Front National. C'est l'union des droites, l'union sacrée des droites. Mais au début des années 90, il prend conscience que le Front National n'aura jamais le pouvoir. Que le Front National, on pourra en parler si vous le voulez, parce qu'il s'inscrit dans une famille populiste qui est traversée par une névrose d'échec, je pourrais l'expliquer, ne peut pas gagner le pouvoir. Donc très tôt, années 90, il cherche à subvertir la majorité de gouvernement. Et il va mettre 15 ans à réussir son opération en 2005-2007, grâce au candidat Sarkozy, il va pouvoir casser tous les codes, briser et lever tous les tabous.
Justement, qu'est-ce qui vous conduit à penser que le Front National n'aura jamais le pouvoir ? Ce qui va inquiéter certains et en rassurer d'autres.
Voilà, oui. Écoutez, c'est l'histoire de Jean-Marie Le Pen est symptomatique. Mais je remonte plus haut. Les historiens du populisme ont tendance à faire commencer le populisme en France au général Boulanger, en passant par Poujade, certaines lignes dans l'entre-deux-guerres, mais surtout Poujade.
Marine Le Pen n'a pas tranché avec ça en s'entourant avec des gens comme Florian Philippot, qui est énarque et qui a été formé à vouloir prendre le pouvoir.
Et oui, mais Philippot est un souverainiste assez rigide, je ne vous l'apprends pas, et je ne l'apprends pas aux Bretons, je pense. La ligne souverainiste est marginale en France. C'est Chevènement qui fait 5%, c'est Villiers qui fait 4-5. Le meilleur score des souverainistes, c'est Villiers en 94, 12-13%. Le Front National aurait besoin d'une ligne plus identitaire. Et or, il semblerait que ce soit la ligne Philippot, donc la ligne souverainiste, qui soit prédominante dans le parti. Et le Front National ne peut pas gagner au second tour sans alliance. Or, la stratégie du Front National depuis toujours, c'est le refus systématique des alliances. On l'a vu, j'ai plus les dates en tête, avec les régionales au temps de Maigret, quand Maigret avait réussi à faire une synthèse, enfin à faire une union, à faire élire des candidats de la droite du gouvernement par les candidats du Front National. Le Pen a mis son veto. Moi, je pense que l'histoire de Le Pen, et en particulier du père, donc de Jean-Marie Le Pen, qui est un personnage fascinant, mais qui est fascinant en termes scéniques, pour ainsi dire. C'est l'ogre, c'est le borgne, qui s'inscrit dans une tradition carnavalesque, moi je dis même aristophanesque, ça relève du monde d'Aristophane, de la satire ménipée au temps des guerres de religion, quand les bourgeois de Paris interpellaient en termes crus le pouvoir royal. Jean-Marie Le Pen relève un petit peu de... Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, qu'on a oublié, de Jean Baudrillard, qui s'appelle « La gauche divine », qu'il a écrit, je crois, dans les années 80. Et Baudrillard dit des choses terribles sur le Parti communiste français. Il dit que c'est un parti qui est porté par un comportement d'échec, que la médiocrité de ses cadres fait qu'il ne veut pas du pouvoir. Ne voulant pas du pouvoir, il se lance dans une surenchère. Cette surenchère l'éloigne d'autant plus du pouvoir. C'est vraiment la définition de la névrose d'échec et du comportement d'échec. Et on peut appliquer par analogie cette grille de lecture. Moi, ça me désole un peu, puisque comme Patrick Buisson, je suis issu d'une famille petite bourgeoise, comme Céline et quantité d'autres. Donc, j'ai vu toujours mes parents se livrer dans des combats boutiquiers, poujadistes, faubouriens, auxquels je suis très sensible. Je me suis intéressé au grand massif de ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime les émotions populaires, c'est-à-dire la révolte, la protestation du peuple à travers les âges. Ça a été des révoltes antifiscales, ça a été la révolte des croquants et des va-nu-pieds. Ça a été des révoltes frumentaires. Il y a une quantité indéfinie de révoltes. C'est ce que j'appelle le populisme avant le populisme. C'est le peuple sans politique. C'est le peuple donc de l'Ancien Régime avant 1789. Et à tous les coups, je dis bien, ces révoltes vont échouer. Et j'en suis venu à renverser le mot célèbre du duc de Liancourt à Louis XVI. Quand Louis XVI lui dit « c'est une révolte », le Liancourt lui dit « non, sire, c'est une révolution ». Et je crois que le populisme, il faut renverser les termes. On croit que c'est une révolution, non, sire, c'est une révolte. Et le Front National est porteur d'une révolte légitime. Ce sont des gens qui ne sont pas représentés. C'est une France qui est sous-représentée. Donc, comme dit Buisson, c'est une sous-France. Et c'est à la fois une souffrance.
Mais vous le dites, à un moment, la France des fragilités sociales représente plus de 60% de la population. Aucun candidat ne peut plus l'emporter à la présidentielle sans le soutien majoritaire des nouvelles classes populaires, à savoir cette France des fragilités sociales. Et paradoxalement, même quand on écoute votre analyse, on va retrouver Emmanuel Macron à l'Élysée, alors qu'il est à l'opposé de cette France des fragilités sociales.
C'est vrai, c'est l'énorme paradoxe de notre époque, c'est que jamais, enfin de notre époque, oui, c'est le grand paradoxe de notre époque, je ne veux pas dire jamais, mais enfin rarement, disons, l'offre politique aura aussi peu coïncidé avec la demande du corps électoral. Et la faute aux Républicains et au Front National, hein, qui sont dans des stratégies de rivalité, de concurrence, hein. Parce qu'ils cherchent, ils visent les mêmes cibles électorales, plus ou moins. Et faute d'un Buisson et faute d'un Sarkozy, Sarkozy a quantité de défauts, j'en pointe une profusion dans le bouquin, et ma sympathie pour le personnage est plus que limitée, elle est très très marginale. Pour autant, Sarkozy, grâce à Buisson, était parvenu à opérer cette majorité de 2 Français sur 3, quasiment, qui porte un candidat au pouvoir. Alors on ne peut pas gagner sans la France périphérique, on ne peut pas gagner sans les catégories populaires, mais on ne peut pas gagner qu'avec elles. Or la stratégie du Front National depuis 30 ans est de penser qu'ils vont pouvoir arriver au pouvoir en ne s'appuyant, en tout cas depuis Marine Le Pen, depuis 10 ans, que sur cette frange-là, que sur cette France-là.
Finalement, toutes les analyses intellectuelles qu'on peut parler de rupture au sein du pays entre la France qui est à Paris et l'autre France, pour ne pas dire pays légal et pays réel,
c'est à peu près ça.
Allez, mais cette sorte de racisme des élites, mais on peut, ils ont finalement, pourquoi se gêneraient-ils puisqu'ils gagnent toujours?
Il gagne à tous les coups. C'est le drame de cette France périphérique, hein, qui se laisse aller à une fatalité. Dans le meilleur des cas, elle vote. Hein, donc elle vote Buisson, elle vote Sarkozy, De Gaulle, Sarkozy, Le Pen, père et fille. Hein. Dans le meilleur des cas, elle vote. Hein. Mais dans le pire des cas, il semblerait presque à l'avenir, dans la majorité des cas, elle s'abstient. C'est-à-dire qu'elle adresse une fin de non-recevoir au pays légal, hein. Ce qui est problématique, puisqu'on est dans des logiques de séparatisme, de séparation, que les travaux de Guillouis montrent très clairement. Vous avez employé le racisme, hein, et c'est exactement ça, c'est exactement la manière dont les élites perçoivent ce petit peuple. Hein. Il est sorti des écrans radars pendant 20 ans. Moi, pendant 20 ans, j'ai entendu « le peuple est mort, il n'y a plus de peuple, le peuple n'existe pas ». Et pour cause, hein. Le peuple avait migré. Guillouis emploie le terme de « marronnage ». Hein. Le marronnage, c'est donc la situation de l'esclave qui quitte la plantation pour se réfugier dans les montagnes. Hein. Donc bref, ce sont des fantômes, malheureusement, cette France périphérique, mais cette Angleterre périphérique qui s'est vengée, l'Angleterre périphérique, hein, et l'Amérique périphérique se sont vengées à travers le Brexit et Trump. Hein. Je crains qu'on n'en prenne pas le chemin en France. Hein.
Qu'est-ce qui différencie? Voilà, on ne va pas en prendre le chemin en France. Cette France périphérique, finalement, se laisse conduire, hein, par le bout du nez, on va dire, par les élites, contrairement à ce que l'on dit. Vous évoquez un peu cette différence fondamentale qu'il y a dans cette interprétation sur le peuple. Les gens comme Mélenchon, rappelez-vous, et la gauche confondent le peuple et l'assemblée de citoyens en tant qu'égaux devant la loi. Or, le peuple de Buisson, c'est une communauté d'origine, de destin et de mœurs. Et ce petit peuple qui a comme seule attache sa communauté d'origine, de destin et de mœurs, signe volontairement son arrêt de mort en acceptant l'égalité devant la loi.
Alors simplement, on est dans une impasse aujourd'hui, pour expliquer la démarche de la France périphérique, hein, elle ne s'est pas imposée d'emblée en fait. C'est étonnamment un mouvement de remigration, mais de remigration intérieure. Hein. C'est les ouvriers de la petite couronne parisienne qui d'abord, et des grandes villes ensuite, hein, vont quitter les lieux de production. Et pourquoi vont-ils quitter les lieux de production? Parce qu'ils sont désindustrialisés. Parce que la production s'est délocalisée en Chine et en Russie, en Europe centrale, etc. Donc ils vont progressivement et ils vont quitter des banlieues où l'immigration arrive progressivement. C'est ce que les Américains appellent le white flight, hein, c'est-à-dire le vol au sens aérien du terme, hein, donc le déplacement, la délocalisation des pauvres, donc du petit blanc, des pauvres blancs, vers la France périphérique, hein, dans laquelle ils vont s'installer. Alors ils vont d'abord envoyer des signaux, hein, par des votes protestataires. parlementaires, ils vont voter Front National, mais la plupart d'entre eux vont finir par s'abstenir. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ne peuvent plus reculer, ils n'ont plus rien où aller. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des Français ne quittent pas leur département. Il y a une majorité de Français qui ne sortent jamais de leur département. Contrairement à ce qu'on pourrait également penser, les départements ruraux, ce n'est pas exactement le terme, hein, les départements qui ne sont pas centraux, quoi, les départements qui ne comportent pas une grande métropole, hein, gagnent de la population. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement, un exode rural renversé. Il y a vraiment aujourd'hui un exode urbain. Alors cet exode urbain, il peut sembler être une impasse. Et aujourd'hui, politiquement, il est une impasse. Hein. Pourquoi est-il une impasse? Parce qu'il n'est pas politiquement représenté. Pour maintenir le Front National a 2 députés à l'Assemblée nationale, alors que le Front National fait un quart des voix. Donc il y a un énorme hiatus, hein, entre le poids électoral du Front National et son invisibilisation institutionnelle. Hein. Mais cette situation-là, de la même manière que la droite hors les murs doit accoucher d'un personnage politique, doit accoucher d'une incarnation, cette France va devoir inventer un modèle de développement alternatif, lequel je ne le sais pas. Mais comme aujourd'hui on est dans cette situation d'impasse, hein, il n'est pas possible que cette relégation sociale perdure. Hein. Il n'accouche pas d'une révolte là qui, pour le coup, serait constructive. Hein.
Ce n'est pas certain.
Eh bien,
Alors
on se dirige vers des logiques de guerre civile. Pour avoir souvent parlé avec Christophe Guilluy, Guilluy nous dit toujours que la séparation interdit par définition la guerre civile, hein, puisque se séparer, c'est refuser la confrontation. Mais ça n'est pas possible jusqu'à un certain point.
Acceptation. J'analyse aussi les choses, j'essaye de le faire, j'écoute en profondeur les catégories, je me promène dans des quartiers populaire, les mêmes qui étaient dans un mouvement de révolte, il faut tout casser, c'est inacceptable, l'usine a fermé, on va pas se laisser faire, etc., il y a quelques années, sont maintenant, par une emprise médiatique du divertissement, en quelque sorte, pris dans un piège intellectuel d'acceptation et de souffrance qui consiste à dire « je suis un pauvre type », on ne pourra rien faire, de toute façon, c'est le monde qui est comme ça. Et finalement, je vaux bien les 700 euros par mois qu'on va me donner à travers le revenu universel. Écoute, inconsciemment, ce n'est pas dit évidemment de cette manière, mais c'est inconsciemment déjà accepté.
Écoutez, on vit
c'est ce qui
les
permet
deux
de penser qu'on n'ira pas vers une guerre civile.
Vous avez peut-être raison, là, ce sont des scénarios. Pour ne rien vous cacher, il m'arrive de l'épouser, hein, ce scénario. Mais il est tellement désespérant, il correspond si peu au réservoir de colère de la population. Mais pour l'heure, en effet,
auprès de son électorat.
Ouais. Mais on est proche d'une léthargie considérable, en particulier dans cette France-là. Et oui, Hamon est fascinant. Moi, je suis à cheval, je suis provincial, je suis même rural, hein. Donc dans cette France périphérique, en Bourgogne, en Basse-Bourgogne, dans l'Yonne. Hein. Donc, mais je vais également à Paris pour le travail, bien sûr, parce qu'il n'y a plus de travail dans nos régions. Enfin, dans cette France, dans cette diagonale du vide que les historiens appellent la diagonale du vide et qui va des Ardennes aux Pyrénées. Et qui passe par le Massif central, la Bourgogne. Et donc je vois donc cette nouvelle classe sociale que sont les bobos et qu'il faut vraiment prendre au sérieux et qui se sont pris d'engouement pour Hamon et se sont pris d'engouement pour Hamon sur un seul point en réalité, pour le revenu universel. Et le revenu universel apparaît clairement aujourd'hui pour ce qu'il est, c'est-à-dire une idée de riche, hein, pour gérer l'inactivité, l'inemploi des pauvres. Donc une idée de la France métropolitaine, de la France des grandes cités, de la France de la mondialisation intégrée, pour gérer une population livrée à l'abandon, sans emploi, sinistrée et désindustrialisée, la population rurale. Mais jusqu'à quand
On va leur donner 700 euros par mois et comme ça, ils ne nous feront pas chier. Excusez-moi, le terme est brut, hein, je le dis, mais c'est exactement.
Mais jusqu'à quand vont-ils l'accepter? Vous avez peut-être raison, peut-être auquel cas, alors il faut.
700 euros par mois, vous allez chez Leclerc, vous achetez des packs de bière et vous avez la TNT avec 25 chaînes gratuites.
Ouais, Alors pour l'heure, cette France-là, c'est la France de ce qu'on appelle dans la périphérie, on appelle ça la France des cas sociaux, des cassos, hein, la France que vous évoquez.
Il y a encore
dans cette France périphérique, même s'il n'y a plus d'industrie, il y a encore une économie pavillonnaire. Hein. L'économie pavillonnaire, c'est le plombier, c'est l'électricien, c'est le boulanger. Ce sont les corps de métier qui font vivre un village ou un bourg au quotidien. Donc, c'est qui emploie pas mal de gens.
Elle est en phase de destruction, cette économie pavillonnaire, par la petite annonce dans Le Bon Coin, par le mec qui, en dehors de ses 700 euros par mois, de son revenu universel, va faire 200 à 300 euros par mois de bricolage au noir. Voilà.
Écoutez, vous faites vibrer Yannick Urien, une corde qui est assez sensible chez moi. C'est la corde célinienne. Hein. Et le tableau que vous brossez de la France périphérique, c'est un tableau célinien. Je le fais mien certains jours quand je côtoie un peu trop de cas sociaux, mais je veux pas non plus totalement désespérer. Il est possible que cette France périphérique reconstruise à partir du bas, sur le temps long, bien sûr, ça prendra beaucoup de temps, un monde plus coopératif, hein, un monde plus communautaire, à partir de démocratie représentative. On n'en est pas là, on en est vraiment à des années-lumière, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais c'est le pari qu'il faut faire, hein, puisque désormais, en effet, c'est traité avec une telle condescendance depuis Paris. Vous rappelez-vous, François Fillon, à l'occasion du Brexit, là, les Anglais s'étaient rendus compte que les jeunes avaient plus voté pour le maintien que pour le Brexit. Hein. Et Fillon avait dit, il faut que le vote des jeunes compte deux fois plus. Hein. Quid du vote des jeunes en France? En France, les jeunes sont majoritairement dans la périphérie et votent majoritairement Front National. Est-ce qu'il faut en France que le vote des jeunes compte deux fois moins? Donc on est dans des logiques de déni de la démocratie, de rapt par les élites de la démocratie. C'est pas la première fois que ça se produit, puisqu'en réalité, c'est inscrit dans l'ADN de la démocratie représentative. Je m'y attarde assez longuement. Il est possible qu'on nous prive de démocratie. Mais bon. Donc là, je tiens un discours célinien qui est le mien certains jours, hein, donc les jours plutôt sombres et plutôt crépusculaires. Et puis, il y a certains jours où il faut essayer d'aller de l'avant et d'ouvrir des perspectives. Hein.
Et voilà, François Bousquet. Livre incroyable, très bien documenté, qui s'appelle « La droite buissonnière ». Et comme je l'ai dit, c'est pas un livre sur Patrick Buisson, même si c'est le personnage central du livre, hein, vous nous racontez. Mais qui permet de comprendre l'importance qu'a eu Patrick Buisson pour changer le cours des choses en France, finalement, sur le plan intellectuel, auprès d'une partie de l'électorat de droite. C'est-à-dire que finalement, il a divisé la droite encore plus, quoi. La droite s'est divisée dans les années 80 avec une partie qui est allée vers le Front National, l'autre qui est restée la droite parlementaire. Et il a exorcisé un dernier bloc. Il y a la droite actuelle, on va dire la droite NKM, Juppé. Premier bloc. Deuxième bloc, la droite buissonnière, ce qu'on appelle la droite hors les murs, qui est encore proche de cette droite traditionnel parlementaire, mais l'iceberg se détache de plus en plus. Et troisième bloc, le Front National. Et voilà, bienvenue en France.
Bah, disons que la droite buissonnière a malgré tout vocation à faire une synthèse.
Hors les murs, on va dire.
Malgré tout, elle a une vocation à réintégrer les murs, aller hors les murs.
Mais elle a vocation à réintégrer les murs. Et puis c'est aussi
mais elle a vocation à revenir dans les murs. Et surtout, elle a vocation à faire une synthèse. Et c'est une synthèse qui s'est déjà produite dans le cours de l'histoire. Donc pourquoi ne pas la reproduire de nouveau, des populistes et des conservateurs. Ensuite, la droite NKM, la droite Juppé, a peut-être vocation à intégrer une grande coalition à l'allemande, au fond, hein, des grandes coalitions du centre, hein, dont aujourd'hui la figure de proue est Emmanuel Macron, mais qui aurait très bien pu être Alain Juppé. Donc on peut imaginer que la réponse du système à la montée de la colère et de la protestation populaire, la réponse, une des réponses du système, hein, est de créer des grandes coalitions de centre-gauche et centre-droit. Ce vers quoi il est possible que nous dirigions en 2017 à travers Macron. Il a été le chef de cabinet, le directeur de la campagne de Bruno Le Maire, la campagne primaire, hein, droite-centre, hein, a d'ores et déjà rejoint Emmanuel Macron. Donc il est possible que le système électoral français fait qu'on va retrouver là aussi, je veux dire, la structure constitutionnelle du vote, l'élection présidentielle à deux tours, fait qu'on va retrouver une polarisation du champ politique. Hein. C'est-à-dire que là, en réalité, c'est la forme électorale contraint le fond électoral à se plier aux règles juridiques, aux règles de l'élection. Donc, il est possible qu'on se dirige vers une coalition du centre, gauche-droite, hein, contre un candidat populiste. Hein.
Eh bien, voilà. Merci encore, François Bousquet, de nous avoir parlé de votre livre, La droite buissonnière.
Et merci de votre invitation.
Aux éditions du Rocher. Voilà.
Merci.
Exact. À bientôt, François Bousquet.
Merci, au revoir.